Alpe 1 et vous, les bons plans d'Annie.
Et on rentre en cuisine aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Berruyer. Laurent Berruyer, bonjour.
Bonjour Annie.
Alors vous êtes formateur au CRETE à Briançon, c'est le centre régional d'enseignement technique de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes. Qu'est-ce qu'on y fait au CRETE à Briançon? Cuisine, mais pas que, a priori.
Ah oui, pas que, bien sûr. Nous, on a des formations en CAP, en BP de cuisine, mais on a également des formations en montagne, formations aussi également liées au développement touristique et bien sûr à la création d'entreprises ou à reprise d'entreprise. Et puis pour les entreprises en règle générale, sur la comptabilité, sur la gestion, sur la finance.
Mmh. Alors vous êtes formateur donc, dans le domaine culinaire et vous faites des actions également en partenariat donc, avec le service du patrimoine de Briançon et notamment avec Gourmand d'Histoire, ce qui veut dire que vous proposez, donc le service du patrimoine de Briançon propose une visite patrimoniale, on va dire, de tout ce qui est architecture briançonnaise et on termine par vos cuisines, où vous proposez de découvrir le patrimoine culinaire du nord des Hautes-Alpes et notamment avec des recettes que vous allez nous dévoiler aujourd'hui, soupe de choux du Briançonnais et ravioles du Kéra. Comment ça se passe? Vous proposez aux touristes, à ceux qui font la visite, de mettre la main à la pâte?
Tout à fait. Ensuite, tout à fait, en ayant fait cette visite, ça creuse un petit peu, comme on dit, l'esprit, mais aussi également la partie, on pourra dire, reptilienne abdominale. Et donc, de ce fait, on fait des applications qui leur permettent de pouvoir partir non seulement avec un petit peu de nourriture d'esprit, mais aussi également un peu d'énergie.
D'accord. Et ils repartent avec les recettes que vous leur dévoilez, que vous leur donnez entre les mains pour pouvoir refaire ça à la maison?
Exactement. Mmh. Alors, il y en a une partie qui est réalisée ici, je dirais, à près de 90%. Et puis après, il y en a une dernière recette, qui est la raviole, qu'on va vous expliquer un petit peu après, qui, elle, par contre, est finalisée à la maison.
D'accord. Alors, commençons par la soupe de choux. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient?
Alors, pour la soupe de choux, il nous faut donc du chou de Milan, hein, qui n'est pas très loin. Il nous faut un petit peu de beurre ou de graisse de volaille, un saucisson à pocher ou éventuellement un petit maigre de volaille, un bouillon de volaille, du vin blanc, et puis quelques épices, baie de genièvre, un peu de carvi des Alpes, quelquefois un peu d'eau de fleur d'oranger, et puis du sel et un peu de miel.
Ah, vous mettez de l'eau de fleur d'oranger dans la soupe de choux?
Oui, alors ça permet d'adoucir, je dirais, quelquefois la crêté de certains choux, de certains aromates ou de certaines épices. Et ne dit-on pas que les enfants, pour les apaiser, dans la bouillie, on mettait un petit peu d'eau de fleur d'oranger?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Hein,
et à ce côté un petit peu aromatique, ludique et puis apaisant.
D'accord. Alors le chou de Milan, c'est quoi comme type de chou?
Ah, alors c'est un chou vert frisé qui a la particularité de ne pas avoir la même acreté et la même odeur si forte que le chou, je dirais, paumé, qui est beaucoup plus caustique, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant en odeur et qui répulse malheureusement beaucoup de clients ou beaucoup de nez, on pourra dire fin, ne serait-ce que par l'odeur.
Alors on y va, comment est-ce qu'on fait cette soupe de chou?
Alors la soupe de chou, donc on fait un bouillon de poule, hein, c'est-à-dire qu'on cuit une poule directement dans l'eau. Et on récupère donc ce joli petit bouillon, après avoir fait comme un pot-au-feu. Et donc, on a plusieurs possibilités. Alors là, quand ils viennent, je dirais, l'ensemble des gens du patrimoine, donc ils utilisent la cuisine et ils ont libre choix dans la créativité. C'est-à-dire qu'ils peuvent couper le chou comme ils veulent, ils peuvent attaquer à mettre un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre ou un peu de gras de volaille, ils peuvent faire des parts à chaud, des parts à froid, mettre les feuilles coupées en petits morceaux, en lamelles, émincer, mouiller avec le bouillon des parts à froid, des parts à chaud, mettre les épices au début de la cuisson, en fin de la cuisson. En fait, il n'y a pas une recette. Il y a des sommes de recettes incroyables que nourrissait bien sûr le marmiton, hein, pour ne pas dire, j'irais dans le maître que, de la garnison franco-italienne sous vos bars, et qui, je dirais, selon les jours, ben, les recettes de soupe étaient différentes.
Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Le chou, on le fait revenir d'abord avant de l'eau?
Voilà, l'idéal, c'est d'en mettre une partie que l'on peut faire dans notre jargon culinaire, faire suer avec un petit peu de graisse de poule.
Ouais.
Avec un petit peu d'oignon, on fait chauffer tout ça, on fait transpirer, comme on dit, puis on peut mettre une petite pointe de vin blanc, mouiller avec le bouillon, des parts à froid, on porte le tout le plus vite à ébullition, et ensuite on peut rajouter, dans certains cas, d'autres agromates, ça peut être des carottes, ça peut être des pois, ça peut être qu'on aurait cuit à part, et puis un peu d'épices. Et le secret, en fait, c'est de rajouter un peu de chou cru à la finition, c'est-à-dire que ce chou, il se marie bien aussi bien en cru qu'en cuit, et si on en rajoute une petite pointe à la fin, on a ce petit côté croquant, savoureux, goûteux, avec le chou qui lui est cuit.
Donc,
et on a en fait ce contraste.
Donc vous ne mixez pas, vous laissez tel quel.
Alors il est pas mixé, tout à fait. Mmh. Mais on peut le mixer, mais là il n'est pas mixé, tout à fait.
D'accord.
Tous les morceaux sont entiers, ce qui est incroyablement, je dirais, délicieux. Et c'est ce qui a surpris, je dirais, la plupart des convives qui sont venus ici au Crète faire les applications, de par la différence, en fait. Ils avaient donc 4 ateliers culinaires, et chacun pouvait faire sa soupe en binôme ou en trinôme ou en quadrinôme. Et à partir de là, donc, on s'est retrouvé avec des recettes incroyablement délicieuses.
D'accord.
Et toutes les unes les autres à des années-lumière en termes de saveur.
Et oui, évidemment, chacun a fait sa soupe avec son
tout
goût.
Tout à fait.
Voilà. Alors, avec la soupe, vous proposez gratin, en tous les cas, des ravioles du Kera. Vous les proposez justement. Bah, moi, j'allais dire gratin, mais pas forcément. Comment est-ce que vous les faites?
Si, vous pouvez dire un gratin, tout à fait. Un gratin ou fricot, hein, fricot qui veut dire tout simplement laisser mijoter sur le coin du piano avec une petite ébullition chantante, qui officialise, si je puis dire, l'appellation du gratin ou alpin, ou la plupart des gratins ou alpins qui étaient faits dans l'antre de la cheminée ou sur la bordure du poêle à bois ou à charbon. Et donc, en fait, la recette est assez simple. C'est une recette qui est à peu près de la fin du 18e, hein, qui est l'apanage, bien sûr, de l'arrivée de la pomme de terre. Donc, on cuit des pommes de terre à la cendre ou éventuellement en robe des champs, ce qu'on appelle tout simplement dans l'eau. Et ces pommes de terre, donc, quand elles sont cuites, on les épluche. Et à côté, on fait une petite tombée d'oignons, c'est-à-dire qu'on coupe les oignons d'une certaine façon. Hein. On les cuit avec un petit peu de beurre et on les cuit à feu doux avec un tout petit peu de bouillon, un tout petit peu d'eau, jusqu'à ce que les oignons soient bien fondants. Et une fois qu'ils sont bien fondants, on écrase les patates dessus. Alors à la fourchette ou quelquefois avec, pourquoi pas, avec le dos d'une casserole, hein, ou tout simplement avec le dos d'une assiette quand on n'a pas de presse purée ou de presse légumes. Et ensuite, on incorpore dedans de la crème jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance moelleuse et fondante. À ce moment-là, on met un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu éventuellement de miel dans certains cas. Et cette purée de pommes de terre à l'oignon est emplie dans des grands moules en terre, bien beurrés, grassement beurrés. Au centre, on fait un puits d'amour, c'est-à-dire un trou, et on y coule à l'intérieur à nouveau de la crème, mais cette fois-ci de la crème épaisse. Et au centre, on pouvait mettre des champignons séchés, des champignons confits, des champignons qui étaient, comme dans le Kera, conservés au gros sel, avec des couches successives de champignons, de gros sel, de champignons, et qu'on pouvait conserver plusieurs années, bien rincés, et qu'on posait au centre de la crème, et ensuite ça repassait tout ça dans l'antre de la cheminée pour faire ce qu'on appelle un confit de pommes de terre, avec un puits d'amour à la crème, avec les champignons, bien sûr, du cru.
D'accord,
et
donc
plat,
le gratinage, il est fait simplement par le fait de le remettre au feu. On met pas de gruyère, on met pas de fromage,
alors,
rien
non,
dessus.
Il n'y avait pas de fromage,
d'accord,
tout à fait. Le fromage était toujours servi à part, hein, ou en accommodation pour accompagnement.
Est-ce qu'on est obligé de mettre des champignons au milieu? Est-ce que ça fonctionne simplement avec le pomme de terre oignon?
La crème, tout à fait, avec les oignons. On peut mettre aussi également, pourquoi pas, des épices, hein, très souvent des baies de genièvre, du carvi, du cumin. On peut aussi également agrémenter avec des foies de volaille qu'on peut probablement sauter à la poêle. On peut mettre aussi également au centre tout simplement de la saucisse, de la saucisse de chèvre, de la saucisse de chou, hein, mettre au centre directement. Et puis, on cuit tout ceci à feu très 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 doux dans l'antre de la cheminée ou dans un four modéré, hein, 140-150 degrés, pendant une petite demi-heure. Et puis c'était servi surtout à Saint-Hubert pour l'accompagnement des plats de gibier.
D'accord.
Et là, sur les préparations, donc ils ont réalisé ça dans des petits moules en bois qu'ils ont pu emporter chez eux, d'une sorte de doggy bag, hein, comme on appelle ça dans le côté anglo-saxon, c'est-à-dire on prépare une partie et ce qui n'est pas intégralement consommé peut être consommé à la maison. Et ils ont emporté chez eux leurs petits gratins et ensuite ils les ont accompagnés pour certains avec des tranches de gigot grillé d'agneau, avec une truite au four. Ça peut être vraiment un délice d'accompagnement sur une agrémentation d'un plat, je dirais, typique.
C'est dur ce que vous nous faites, on a faim maintenant.
Pardon, excusez-moi.
On a faim maintenant.
Ah ouais,
bah
je
oui,
je crois que c'est vrai que les retours que l'on a eus, ils ont été assez surprenants, hein, c'est-à-dire que les gens se sont vraiment appropriés les recettes, grâce entre autres à Julie qui a été également...
Julie Crutz, hein, du service
Julie
du patrimoine.
Crutz, tout à fait, et Yves Régnier, donc qui a joué le rôle de Polycarpe dans le cadre, je dirais, du comédien, je dirais, assez, comment dire,
Truculent, moi je dirais.
Ah oui, ouais, tout à fait, je crois que vous avez dit le mot. Et je pense que ça a bien adhéré au niveau des convives et des clients qui sont venus assister à ces applications.
Eh bien, Laurent Berruyer, merci beaucoup de nous avoir fait partager ces recettes de gourmands d'histoire. Donc, soupe de choux du Briançonnais et ravioles du Kera. Merci à vous.
Merci
et puis,
beaucoup.
Je vous dis bon appétit alors.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les bons plans d'Annie, tous les matins sur Alpe 1 à 11h45.